n'est-ce pas, pour vous dire que la conception de l'unité qui se compose de trois parties, et ça n'a rien à faire avec la Trinité, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans un concept général, basé sur un verset de Michelet qui dit qu'un fil fait de trois filaments, eh bien, indestructible. Je vous ai rappelé comment une réalité composée d'un commencement, d'un milieu et d'une fin, Abraham, Isaac et Jacob. Je vous ai cité aussi, n'est-ce pas, Adam, vous vous souvenez le nom de Adam qui représente l'humanité et qui est composé de Aleph initial de Adam, de Dalet initial de David et de Mem initial de Mashiach. Et donc la réalisation, l'unité véritable se compose de trois choses qui sont assemblées et également que effectivement, à l'époque de la première royauté, David a bien régné 40 ans, Salomon a bien régné 40 ans, mais Jéroboam n'a régné que je crois 17 ans, ou je ne sais plus, je vous avais donné la durée. En tout cas, il y a eu le schisme du royaume de Juda et d'Israël. Jéroboam a 17 ans, c'est ça. Donc il n'y a pas eu trois générations complètes, et donc il est normal, c'est un minimum, qu'il y ait trois générations complètes à l'époque du Mashiach, du Messie. Vous n'êtes pas gêné par le bruit extérieur, vous m'entendez, oui? Sinon, on fermera la fenêtre parce qu'on ne peut pas hurler, surtout pendant 2 heures. Vous êtes gêné derrière? Ça va, vous m'entendez? Ça me met difficile de parler très fort pendant 2 heures, alors sinon on fermera la tête. Et c'est là que nous étions arrivés, n'est-ce pas, dans la partie analytique. Vous aviez une question, mademoiselle?
Oui, je voulais savoir si par trois générations, vous entendiez, comme il était question de 40 ans de règne de David et 40 ans de Salomon, s'il s'agit de générations messianiques, si ça voulait dire 120 ans.
Alors c'est la question que je me suis également posée, je vous remercie de vous en être aperçu. J'ai dit l'autre jour, en réponse à une question, le professeur Meyer, qui était passé ici, qui me demandait, il n'est pas là aujourd'hui, il m'a dit qu'il arriverait récemment en retard, en raison de ses obligations professionnelles, que lorsque on parle d'une génération qui est de 20 ans, vous vous souvenez de la conversation, qu'il y avait effectivement des textes qui disent qu'une génération, normalement, c'est 20 ans. J'avais d'ailleurs promis à M. Meyer la référence, je l'ai vérifié, c'est dans le Midrash sur les psaumes, dans Shocher Tov, le commentaire sur le psaume 90. Sur le psaume 90, verset 17, où il est cité le psaume 72, verset 5, qui est justement notre psaume, et ils te craindront avec le soleil et en présence de la lune, une génération de générations. Et où il y a toute une série d'opinions qui sont données dans ce Midrash, quelle est la durée du jour du Messie. Et on retrouve d'ailleurs la plupart des énoncés de notre Gemara se trouvent, mais beaucoup moins développement différents. Et alors, à propos de cela, il y a Rabbi Yossé qui dit, eh bien, le Messie, c'est 60 ans, comme il est dit dans le psaume 72.5, et ils te craindront, etc., une génération, deux générations. Une génération, c'est 20 ans, donc trois générations, c'est 60 ans. Donc, voilà la référence de base. Mais effectivement, si je me fonde sur ce que dit le Maharsho, à savoir qu'il y a eu trois générations non complètes à l'époque de David, et qu'elles ont régné, effectivement, les deux premiers, comme je viens de le dire, David et Salomon, 40 ans, on peut se poser la question si, ici, les générations ne sont pas des générations différentes. Comme la génération le psaume 95 nous cite avec le premier arbre, une génération mais 40 ans, génération particulière, et je me demande si ce n'est pas, mais la réponse n'engage que moi, parce que je n'ai pas de texte, et vous savez que je m'interdis de donner mes idées ou mes imaginations personnelles. Je m'efforce d'être le transmetteur, le traducteur, l'interprète de la tradition. Mais je me suis posé donc la question, si on n'a pas marqué effectivement trois générations, et non pas 60 ans ou 120 ans, de façon à montrer qu'il y a trois générations comme d'or, d'orim, et avec les deux possibilités, donc soit considérer trois générations normales, soit trois générations messianiques, et qui reprendraient non plus les trois générations de David, Moïse et son fils, mais les trois durées de règne. Donc effectivement, Je vous remercie de votre question. Je crois qu'il y a là une double lecture possible, puisqu'on dit trois générations et non pas la durée. C'est pour ça que dans mon tableau en français, je me suis bien gardé de mettre 60 ans, ce que j'aurais voulu mettre au départ, mais j'ai mis trois générations. C'est ça votre question. Alors, en arrivant maintenant, donc, là, nous étions arrêtés. Bien entendu, pour ceux qui n'étaient pas là avant-hier, nous avons vu ça pendant beaucoup plus de temps. Alors maintenant, nous allons arriver à Rabbi Hillel, qui a une position tout à fait révolutionnaire, une position absolument incroyable, et pourtant Rabbi Hillel, c'est le petit-fils de Yehuda Nassi, c'est le fils de Rabban Gamliel III, il a d'ailleurs étudié avec son grand-père. Ce n'est pas n'importe qui, comme d'ailleurs tous les autres rabbins qui sont dans ce texte. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hillel? Eh bien, il dit « Ein, lohem mashiach l'Israël ». Pas de Messie du tout, pour Israël, qui kfar achalou, qui mefiskio, car ils en ont déjà joui, à l'époque du roi Ézéchias. Qui est, je vous rappelle, le 12e roi après Salomon, qui a vécu à l'époque de la chute de Samarie, la chute du royaume d'Israël. Et je rappelle également, je ne sais pas si je l'ai dit au cours d'une de mes nombreuses interventions au cours de ce séminaire, que Ézéchias est effectivement une des figures messianiques de la tradition juive. Il y a dans Sanhédrin 94, je crois, donc un texte où l'on parle de que Sanhédrin aurait pu être le Messie.
On dit qu'il lui manquait le chant de
la Gemara ici de Sanhédrin est très précise, si vous voulez, c'est qu'il y avait, il aurait pu être le Messie, mais la Midat Hadin, c'est-à-dire la vertu de justice, s'est élevé devant Dieu en disant « Tu ne l'as pas donné à David qui le méritait davantage, n'est-ce pas ? Donc tu ne peux pas le donner à Ézéchias. » Ce qui veut dire que si, du point de vue de la miséricorde divine, on aurait pu avoir un petit coup de pouce donné à l'histoire, n'est-ce pas ? Et que, du point de vue du mérite relié à la miséricorde, Ézéchias aurait pu être le Messie, du point de vue de la justice stricte, ce n'était pas possible. Et par conséquent, de nouveau, là, cela a échoué. Mais on peut dire que là, dans le dialogue entre Dieu, Israël et le jugement d'Israël, c'est le jugement d'Israël qui a empêché Dieu de donner à Ézéchias, qui aurait mérité au départ d'être le Messie. Effectivement, comme aurait dit Rav Ashkenazi, si je puis m'exprimer ainsi, il s'est dévoilé ensuite qu'il ne pouvait pas l'être, puisqu'il a ensuite commis une faute, il n'a pas fait effectivement le chant de reconnaissance, c'est ça votre allusion?
Non, il n'a pas fait. Pas chanté, moi j'ai compris ça.
Non, il aurait dû faire un chant de reconnaissance pour les bienfaits de Dieu et il n'a pas fait. Enfin bon, c'est un autre thème, si vous voulez. En tout cas, je veux signaler par là que Rabbi Hillel n'est pas complètement tombé sur la tête, n'est-ce pas ? Qu'il a choisi Ézéchias, qui est effectivement une des figures messianiques possibles, puisque le Talmud lui-même, n'est-ce pas, dit qu'Ézéchias aurait pu être le Messie, mais pour des tas de raisons qui devraient faire l'objet d'une autre étude, n'est-ce pas ? Je n'aime pas parler comme ça en trois minutes de sujets aussi difficiles et délicats, pour dans un certain nombre de raisons que je veux simplement donner les grandes lignes, ça ne s'est pas fait. Nous savons que ça ne s'est pas fait, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas eu de Messie authentique. En tout cas, Rabbi Hillel dit, il n'y aura pas de Messie, parce qu'il y a déjà eu, et à ce moment-là, vous vous souvenez qu'il y a une objection. Il y a Rabbi Yosef, n'est-ce pas, qui objecte, en disant, mais comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille, puisqu'il a vécu pendant le premier temple, puisque c'est avant la destruction du premier temple. Or, nous avons une prophétie de Zacharie, qui lui a vécu au deuxième temple. Je vous la rappelle, nous l'avons traduite la dernière fois. Zacharie 9.9, n'est-ce pas, qui dit « Réjouis-toi grandement », vous l'avez dans la Gemara, n'est-ce pas, « Réjouis-toi grandement, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi viendra pour toi, il sera juste et sauvé, humble et chevauchant un âne et un ânon petit d'ânesse. » Alors, le problème qui se pose, c'est de savoir quelle est l'intention de Rabbi Hillel. Qu'est-ce que Rabbi Hillel veut dire en nous disant qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël? Cette opinion de Rabbi Hillel a donné lieu à une quantité considérable de commentaires. Effectivement, parce que c'est quelque chose, je vous dis, qui est unique. C'est-à-dire, c'est le seul, vous voyez, qui dit qu'il n'y aura pas de Messie. Il n'y aura plus de Messie, comme vous voulez, pour Israël. En hébreu, « Ein », c'est pas de Messie. Parce qu'ils en ont déjà eu un. Et je vous donnerai simplement une explication relativement simple, dans la cohérence de ce que nous étudions ici. Quelle était l'intention des trois rabbins qui ont précédé? Vous en souvenez, j'espère. C'est que le plus tôt possible, que ce soit Dieu lui-même qui règne sur Israël, que le Messie ne soit là que pour faire le commencement de la délivrance, pour sortir les Juifs de l'exil. Alors ça dure 40 ans parce que moins, ça ne serait pas décent, ça dure 70 ans parce que moins, ça ne serait pas un Messie complet, ça dure 3 générations parce que moins, ça ne serait pas, etc. Rabbi Hillel, tout simplement, et Rashi le dit d'ailleurs très clairement dans la Gemara, ce que Rabbi Hillel souhaite, c'est que ce soit Dieu lui-même qui prenne en charge Israël depuis le commencement de la délivrance. Rabbi Hillel, il veut complètement supprimer toute intervention humaine. Rabbi Hillel souhaite que ce soit Dieu lui-même qui règne sur Israël dès le début de la fin de ce monde-ci. Que ce soit Dieu qui sorte directement les enfants d'Israël de l'exil. Et alors, on peut, d'ailleurs je pense, rapprocher cela du verset qui a été étudié lundi soir et hier soir avec Rav Ashkenazi, la fameuse citation de Maïmonide qui se trouve dans le Deutéronome chapitre 30 verset 3, Veshov Hashem Elokecho Eshevusro. Avec notre discussion, n'est-ce pas, est-ce que le verbe est un kal ou un yifil? On traduit habituellement comme c'était un yifil, Dieu ramènera, mais comme Rav Ashkenazi l'a précisé, n'est-ce pas, il s'était mal expliqué peu clairement lundi, il faut bien lire, malgré notre réticence, Shov, c'est un kal, et Dieu reviendra avec tes exilés, n'est-ce pas? Dieu reviendra avec tes exilés. Et effectivement, Rav Ashkenazi faisait remarquer qu'il n'y a pas dans ce verset de Messie clairement défini. Il va de soi, si je puis dire, que c'est de ça dont il s'agit. De même façon qu'on pourrait dire, si nous prenons la première opinion, celle de Rabbi Eliezer, qui dit pendant 40 ans, j'agripperai une génération, il s'agit de Dieu qui parle, n'est-ce pas? Or, on attribue cela tout tranquillement au Messie, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu par l'intermédiaire du Messie. Mais si l'on veut être révolutionnaire et aller jusqu'au bout de la logique, on pourrait dire aussi qu'il n'est pas question de Dieu. Eh bien, nous avons donc un verset de Deutéronome qui nous dit que c'est Dieu lui-même qui reviendra avec Israël, comme si c'était Dieu lui-même qui, dès le départ, ou dès le début, avec ou sans le Messie, c'est pas dit dans le verset, ramène Israël, et bien Rabbi Hillel souhaite tout simplement que ce soit Dieu lui-même qui, dès le départ, ramène les exilés, et donc que l'on fasse, si je puis dire, l'économie d'un Messie. Alors, bien entendu, il y a une difficulté, parce que il y a plusieurs difficultés. Je vous signale rapidement une première qui n'est pas difficile à résoudre, c'est que, est-ce que Rabbi Hillel pense que toutes les prophéties qui ont été faites concernant le Messie ont été réalisées à l'époque d'Ézéchias? Non, bien entendu. Mais si l'on définit le Messie, et je crois que là, le Maïmonide, qu'on a étudié les deux soirées intercalaires, si je puis dire, vous aidera beaucoup. Si vous vous souvenez que le programme du Messie est présenté surtout par Maïmonide, dans sa version très sèche, comme un programme de rétablissement de la souveraineté, un programme de reconquête d'Eretz Israël. Il y a presque un programme de chefs militaires et de guerriers. Eh bien, à ce moment-là, les commentateurs font remarquer qu'effectivement, Ézéchias est celui qui a réussi à être victorieux, qui a réussi au cours de l'histoire, donc, à avoir le soutien de Dieu dans ses luttes, et que par conséquent, c'est cette partie-là des prophéties concernant la partie plus matérielle du Messie qui a été réalisée par Ézéchias, et bien entendu, chas v'shalom, à Dieu ne plaise, que Rabbi Hillel pense que les prophéties qui ont été dites, toutes les prophéties concernant les temps messianiques ont été réalisées. Ézéchias, il sait parfaitement qu'elles se réaliseront à l'époque messianique, mais Ézéchias a déjà eu sur lui les prophéties concernant un certain travail messianique, et par conséquent, il pense qu'il n'y aura plus de messie personnel. Je signe entre parenthèses, parce que ce n'est pas un point de vue traditionnel. Oui, traditionnel, je vous l'ai donné. C'est que tout simplement, il souhaite, comme je l'ai dit, il souhaite eh bien, que ce soit Dieu lui-même qui prenne en charge directement les Israël. Mais les historiens ont fait remarquer que Rabbi Hillel a vécu au IVe siècle, à une époque où il y avait des mouvements et des remue-ménages important concernant des tentatives de montrer que Jésus, en tant que Messie, se trouvait déjà impliqué dans la lecture de la Bible, de l'Ancien Testament, et que la position de Hillel aurait pour but d'annihiler les arguments en faveur de Jésus, Messie des chrétiens, puisque le Messie serait déjà venu sous la forme d'Ézéchias, n'est-ce pas, et que par conséquent, ce n'est pas la peine de chercher à savoir si Jésus ou non est le Messie, il ne peut pas l'être, puisque c'est bien avant lui qu'il a dit. Ça, c'est l'opinion des historiens. Je vous la signale simplement parce que je l'ai lu en préparant ce cours il y a quelque temps. Mais pour la tradition juive, la raison n'est pas une raison de critique textuelle, n'est-ce pas, mais une raison beaucoup plus cohérente avec les trois qui précèdent. C'est pour cela, d'ailleurs, que le Talmud a placé l'opinion de Rabbi Hillel, qui est un Amora palestinien, mais qui n'est pas un Tana, l'a placé à la fin de la Braïssa, des trois premiers, parce que, j'allais dire, où vouliez-vous mettre son opinion? Son opinion, elle va de pair avec l'opinion de ceux qui veulent que l'époque messianique soit la plus courte possible, puisque pour lui, c'est, pour employer un terme moderne, l'option zéro. Non pas au point de vue diffusé, mais l'option zéro au point de vue de la durée du nombre d'ogives messianiques. Zéro ogives messianiques. Alors, vous me direz, vous, Rav Yosef lui répond. Et il nous dit, eh bien, cette lecture, elle n'est pas possible, n'est-ce pas? Elle n'est pas possible puisque nous avons un verset apparemment très clair et que ce verset nous dit que dans Zacharie, c'est ça, qui a prophétisé beaucoup plus tard et qui prophétise donc sur quelqu'un qui n'a pas pu avoir déjà existé. Et effectivement, la tradition juive, je vous dis tout de suite, n'a pas retenu l'opinion de Rabbi Hillel. Bon, je voudrais faire remarquer qu'aucune des opinions émises n'est contestée, il n'y a que celle de Rabbi Hillel. Et dans les discussions des sages jusqu'au XVIIIe siècle, le Khatam Sofer a consacré une partie importante des Shalot Shuvot pour insister de dire qu'il ne faut pas répandre l'opinion de Rabbi Hillel au XVIIIe siècle parce qu'elle risque d'être dangereuse si elle est mal comprise. Donc, l'opinion de Rabbi Hillel est, si vous voulez, la seule qui ne soit pas véritablement retenue. Mais, me direz-vous, comment, je réponds à une question là qui pourrait se poser aujourd'hui ou demain lorsque vous relisez vos notes de cours, comment Rabbi Hillel, qui n'était pas un imbécile et qui connaissait aussi bien que vous et moi, sinon mieux, la prophétie de Zacharie, n'est-ce pas ? Le texte de Zacharie, a-t-il pu déclarer il n'y aura pas de Messie parce que Ézéchias est déjà venu, qu'est-ce qu'il fait, si je puis dire, de la prophétie de Zacharie? Il faut bien qu'il l'interprète. Alors, je vous signale, je ne vais pas faire un cours là-dessus, pour les personnes que ça intéresse, le problème se trouve bien présenté par Ibn Ezra sur son commentaire de Zacharie, justement, sur le verset chapitre 9, verset 9. Simplement, je vous résume en quelques mots, Ibn Ezra nous explique que ce verset de Zacharie, dans la tradition juive, est attribué à des personnes différentes, qu'il y a une discussion. Yeshomrim, certains disent, ça s'applique au Mashiach ben David, ça s'applique bien à notre Messie, c'est-à-dire nous sommes dans la cohérence de notre Gemara, et c'est, si vous voulez, une opinion, l'opinion largement répandue, c'est l'opinion classique, c'est comme ça qu'elle est lue, c'est-à-dire c'est le fameux verset où on parle du prophète sur un âne, n'est-ce pas, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc ça s'applique au Mashiach ben David, et c'est ainsi que le lit Rav Yosef, mais il existe également d'autres opinions que rapporte Ibn Ezra aussi. Certains l'attribuent au Mashiach ben Yosef, et à ce moment-là, effectivement, Rabbi Hillel peut parfaitement utiliser ce verset de Zacharie, il n'est pas gêné si ça ne s'applique pas au Mashiach ben David. Et puis, il y a d'autres, Rabbi Moshe à Cohen, qui l'appliquent à quelqu'un d'autre, qui l'appliquent à Nehemia Hatirshata, c'est-à-dire le fameux Néhémie, vous savez, Ezra et Néhémie, le Néhémie que la tradition identifie avec Zerubbabel, et comme vous savez, que ce Néhémie qui a été celui qui a été gouverneur de Juda, puisqu'il était les chansons de Artaxerxès I, et que grâce à cela, il a pu, pendant l'exil de Babylone, recevoir la permission de reconstruire le temple, de retourner à Jérusalem, et qu'il a été le premier gouverneur de Juda. Il a vécu donc au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Et donc, on a pu espérer à un moment donné que ça serait le début de la reconstruction du temple et peut-être d'une messianité. Et si personne ne fait de Néhémia une figure messianique, c'est une figure, j'allais dire pré-messianique en tout cas, c'est quelqu'un qui représente un événement fantastique dans l'histoire juive, puisque c'est celui qui a mis fin aux 70 ans d'exil. C'est le premier retour. Et donc on peut comprendre que l'on présente ce retour, eh bien, lisons ce verset, il va très bien, n'est-ce pas ? Voici ton roi viendra, juste et sauvé, puisque Dieu l'a sauvé, et c'est pour montrer qu'il est modeste, qu'il ne va pas s'embarrasser d'honneur, qu'il modestement il reviendra à Jérusalem, sur un âne, etc. Et enfin, quatrième opinion, Ibn Ezra dit, moi je pense qu'il s'agit tout simplement de Yehuda ben Hashmonaï, c'est-à-dire Judas Maccabée, le troisième fils de Matathias, qui a vécu donc au deuxième siècle avant la chrétienne, et donc effectivement, Judas Maccabée, qui est à la pointe de la révolte contre les Grecs, et qui est donc une figure également très importante dans l'histoire juive, n'est-ce pas, pour montrer que Judas, au début de l'épopée des Maccabées, eh bien, qu'il se conduit de façon modeste et non pas orgueilleuse, et donc ce verset s'applique à lui. Tout ceci pour vous dire simplement que quand vous avez une discussion, il faut bien se dire au départ que la Gemara nous apporte un texte interprété par Rabbi Hillel, une réponse de Rabbi Yosef, il faut bien se dire que Rabbi Hillel n'est pas un imbécile et qu'il avait la possibilité d'utiliser ce verset autrement. Mais Rabbi Yosef remet les choses à leur place d'après le bien majoritaire en disant ben, « non, ça ne va pas ». Mais Rabbi Hillel pouvait très bien ne pas être gêné par ce verset. Si je referme cette parenthèse, un petit exemple méthodologique, n'est-ce pas ? Avant de se dire « ça ne tourne pas rond », essayez de voir comment et pourquoi les gens ont pu dire des choses qui paraissent a priori bizarres. Donc, Non, Ibn Ezra ne parle pas de Hillel. Ibn Ezra, je vous ai dit que vous trouvez un résumé de la lecture de ce verset, c'est dans Zacharie 9:9, dans les différents commentaires. Eh bien, Ibn Ezra récapitule les quatre lectures possibles de ce verset. Je vous ai donné l'endroit pour ceux qui veulent s'y référer. Il ne donne pas les sources. Vous savez, Ibn Ezra, c'est un érudit. Le commentaire d'Ibn Ezra est un commentaire d'érudition pour érudit. Vous savez que chaque commentateur a sa chita, a son optique propre. Les commentaires ne se répètent pas. Et le commentaire d'Ibn Ezra est un commentaire absolument cachère, traditionnel, mais d'érudition pour érudit. C'est pour ça que parfois, il a été mal compris par certains qui ont voulu y voir un précurseur de la critique biblique, ce que Chas v'Shalom, Ibn Ezra, n'est absolument pas, rassurez-vous. Mais c'est un homme très précis. C'est le rôle de son commentaire. C'est le but de son commentaire. Alors donc, Rabbi Hillel, on comprend maintenant, en tout cas parfaitement, son point de vue, son souhait, n'est-ce pas, que Dieu nous délivre aussi du Messie. Comme je le disais, n'est-ce pas, les Lubavitch se promènent avec des banderoles « We want Mashiach no », on veut Messie maintenant. Rabbi Hillel dirait « We want HaKadosh Baruch Hu no », n'est-ce pas, nous voulons Dieu. Maintenant, « Hank et Nunk », pour ne pas le dire en latin. Je crois que c'est assez clair pour Rabbi Hillel, n'est-ce pas. C'est la position extrême, la période la plus courte possible pour le Messie, bien c'est qu'il n'y ait pas de Messie du tout, hein. C'est que directement Dieu prenne en charge. Ça c'est donc la fin de la première Beraïssa. Alors nous allons maintenant passer à la suite, c'est-à-dire que nous avons là donc la deuxième Beraïssa, et je rappelle, comme je l'ai donc dit lundi, que là, la modalité qui va guider les rabbins pour évaluer la durée du Messie n'est plus la même. Si la Gemara nous rapporte une deuxième Beraïssa, c'est pas pour répéter la première. Elle ne l'apporte pas comme confirmation, mais comme autre lecture. Ici, il s'agit, comme je l'ai dit, d'une compensation pour les souffrances et les injustices de l'histoire humaine. Le monde a été créé pour être un monde viable, vécu par un homme véritable, dans la paix, et quand on dit paix, ça veut dire dans la plénitude. Eh bien, tant que l'histoire dure, notre histoire actuelle, ce monde-ci, ça n'a pas lieu. Je crois que nous le savons. C'est pas la peine de le répéter à toutes les générations, et surtout à nos générations, qui ont encore en mémoire les événements du XXe siècle, 1914, 1917, 1939, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas parler d'une plénitude, et par conséquent, il n'est pas possible, il n'est pas pensable qu'un monde créé par Dieu n'ait pas une réparation d'équivalence aux souffrances qui ont été le lot de l'histoire de ce monde-ci. Et par conséquent, les rabbins vont voir quelle est la durée minimale décente que l'on peut exiger dans la cohérence divine, c'est-à-dire dans la lecture du monde tel qu'il est, tel que Dieu nous l'a communiqué par la Bible elle-même, quelle est la durée minimum de récupération, de compensation, d'équilibrage pour que le monde ne soit pas un monde d'injustice. Et là, première opinion, c'est de nouveau Rabbi Eliezer. Eh bien, de nouveau, il nous dit que c'est 40 ans. Moi, ça m'a cher Avoyim Shonor. Nous l'avons lu et traduit la dernière fois, je n'y reviens pas. Le verset qu'il cite, vous en souvenez, le verset en Deutéronome 8.3. Alors, je vais vous rappeler donc le verset. Du Deutéronome, nous allons le voir en entier, parce que là, vous l'avez coupé. C'est donc dans le Deutéronome 8.3, lorsque Moïse rappelle ce qui s'est passé pendant les 40 ans du désert, et qu'il est dit « Vaya ancho, vaya rivejo, vaya chilcho esamon asher lo yodato ve lo yod dun avosejo. » Le man vous dira qu'au kilo y a l'échem levado yechir otam, tchal kol mod sofi hachem yechir otam. Alors, le début du verset, si ce vous intéresse, vaya ancho, et il t'a opprimé. Nous avons donc le radical ono, opprimé, le terme de inouï, oppression, et il t'a opprimé, et il t'a affamé, et il t'a fait manger la manne. D'abord, il t'a opprimé. Puis il t'a affamé, et enfin il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas. Donc, en tout cas, il y a eu une période difficile, même si ce n'est pas le sujet de notre étude. On peut expliquer, les commentateurs l'ont fait, comment on peut dire que Dieu, qui a eu oppression et affamement, je ne sais pas comment on dit en français, puisqu'ensuite il y a eu la manne qui est considérée comme quelque chose d'extraordinaire. Bon, mais là aussi, je vous dis, il y a une réponse à cette question. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a bien dans le mot vaya ancho dans le verset, il nous a opprimés. Il y a eu quand même des moments difficiles, les 40 ans du désert, tout au moins avant qu'on arrive à la manne, et que, de toute façon, le séjour dans les 40 ans de désert n'était pas un séjour tellement agréable. Et par conséquent, comme ça durait 40 ans, et qu'il est écrit donc, et Dieu nous a opprimés. Et que par ailleurs, souvenez-vous, il y a un autre verset donc, que cite le même Rav